Bernard.
Je vais pas faire la synthèse de la journée, bien entendu, mais faire quelques retours, quelques remarques. J'en ai regroupé, j'ai regroupé 5. D'abord pour noter que c'était une journée pour moi tout à fait intéressante, qui pose beaucoup de questions, pas uniquement des questions d'opérationnalité, mais qui pose des questions de fond, parce que je crois que ça impacte l'ensemble du paysage, et pas que le paysage de la politique de la santé mentale, mais l'ensemble du secteur social et médico-social. J'ai retenu, c'est partie des premières questions, j'ai retenu l'idée qu'on avait là un modèle, et en même temps j'ai retenu l'expression que vous avez utilisée quand vous disiez il reste beaucoup à modéliser. Donc c'est un modèle qui reste à modéliser. On en tirera la conséquence que l'aventure est loin d'être terminée. Et en tout cas, si je suis témoin de quelque chose, je suis surtout témoin d'un processus qui est très long entre l'idée de départ qu'on trouve et datée d'ailleurs dans certains rapports à 1992 et puis 25 ans après le décret de pérennisation. Et il se trouve qu'entre les deux, j'ai travaillé dans les années 2009-2010 à la Mission nationale d'appui en santé mentale et qu'on s'était évidemment beaucoup préoccupé de ce programme de chez soi d'abord parce qu'il correspond en fait à un tournant dans les politiques publiques qui est à l'intersection de deux mondes, le sanitaire, le social et le médico-social, enfin, peu importe, mais encore aujourd'hui, il existe toujours un code de la santé publique et un code de l'action sociale et des familles. Donc même si des approches interministérielles favorise les liens entre tout ça, mais je me rappelle que du temps de la Mission nationale d'appui en santé mentale, on avait dans le collimateur ce qu'on appelait à l'époque, on appelle peut-être encore toujours, les hospitalisations inadéquates. Et la notion d'inadéquation, si vous voulez, elle est quand même au cœur de ces questions-là. Parce que c'était adéquat à quoi ? C'était l'identification de besoins spécifiques de personnes qui devaient appeler des réponses particulières et en face desquelles, d'ailleurs, on mettait des institutions, mais aussi des métiers. Il se trouve que dans le même temps, il y a eu deux choses quand même tout à fait importantes. Simultanément avec le lancement de l'expérimentation, un peu avant, je pense que ce qui a été majeur, ça a été la loi de 2005, parce que quand elle aborde la question du handicap psychique, elle traite bien d'une intersection entre deux univers. Et à l'époque, la finalité de l'action sociale et médico-sociale n'est pas écrite comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai toujours buté sur ce terme de rétablissement, même si j'entends bien qu'il fait consensus, parce que la finalité ultime, c'est en fait l'inclusion. Quand on parle de société inclusive, on voit... Alors après, il y a une question d'étape. Et pour arriver à ces différentes étapes, la coopération entre les acteurs est tout à fait centrale. D'ailleurs, les groupements de coopération dont on vient de parler sont définis par la loi de 2005. Et il y a, dans le même temps aussi, il y a un rapport du Conseil supérieur du travail social en 2007 sur le décloisonnement et l'articulation du sanitaire et du social. Et à l'époque, puisque je participais à ce groupe, déjà la question du travail social était présente. Mais disons que surtout ce qui préoccupait les membres du Conseil supérieur, c'était la question des pratiques. Parce qu'en fait, au-delà des questions de loi, de réglementation, de dispositifs, le problème de fond, on l'a bien senti, surtout cet après-midi, c'est la question des pratiques, c'est la question des cultures professionnelles et des possibilités pour ces cultures professionnelles d'évoluer, qu'elles soient... d'un monde ou d'un autre, et aussi derrière la question des représentations sociales. C'est pourquoi j'aurais tendance à dire que le problème aujourd'hui n'est pas uniquement la pérennisation d'une expérimentation, mais la question, c'est l'appréciation qu'on peut porter quant à l'impact et de l'expérimentation et de ses suites sur l'ensemble du système, sur la façon de penser, sur la façon de se positionner, sur la façon de parler des métiers du travail social comme les métiers du secteur médical et paramédical. On peut se dire que de ce point de vue, chez soi d'abord, est un des volets de ces innovations puisqu'on a parlé des appartements de coordination thérapeutique, mais j'ai en tête le dispositif d'accompagnement global des ITEP, des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, dont on ne parle pas ici, mais on pourrait donner plein d'exemples de ce type. Et donc on a l'impression qu'on tourne autour de nouvelles approches, où on pense aux logiques de plateforme. Enfin, et je crois que ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est plus intéressant, mais c'est un enjeu très important, au-delà de la question du SMH, c'est-à-dire au-delà de la reproduction d'un modèle, parce que si on a vécu longtemps sur la reproduction d'un clivage, et là, si on reproduit aussi des modèles, j'entends bien qu'il faut stabiliser les choses, c'est indiscutable, mais en fait, la capacité d'innovation, elle doit toujours être présente. Deuxième point, c'est la question du travail social. J'en dis un mot parce que Sylvain Mathieu en a parlé dans son introduction, puis ça m'a un peu surpris parce qu'en fait, on en parle de plus en plus. Je dirais que c'est, en fait, depuis le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, j'insiste toujours sur le titre complet, l'inclusion sociale, il s'est trouvé qu'il y avait un volet intitulé, qui a surpris tout le monde, « Refonder le travail social », et donc il y a une double surprise. Et une surprise quant au fait de s'interroger sur les fondements de quelque chose qui paraît acquis, et il y a une autre interrogation, c'est sur l'importance de la thématique du travail social dans un champ où j'ai entendu parler encore de prise en charge, j'entends patient, j'entends, qui est quand même un monde. Bon, dans mon cas, après avoir été sociologue, je suis venu infirmier de secteur psychiatrique, donc ça me choque moins, mais n'empêche que c'est quand même. Et alors, ça veut dire, en fait, que la question du travail social, elle dépasse la question des travailleurs sociaux. En tout cas, pour dire, comme le dit souvent Brigitte Bouquet, le travail social, ce n'est pas les travailleurs sociaux, ce n'est pas que. Pourquoi ? Parce que quand l'adresse chiffre à 1 200 000 travailleurs sociaux, on sait que la part des travailleurs sociaux, style assistante sociale, éducateur, etc., est assez restreinte, mais surtout parce qu'on a une approche élargie, extensive du travail social à l'intervention sociale. Et de ce point de vue-là, j'ai entendu des travailleurs sociaux, une conseillère, une commission sociale et familiale, des AS, des ES, etc., et un moniteur éducateur aussi. Et je pense que dans leurs propos, on voit bien comment une certaine forme de travail social doit inspirer les autres formes de travail social. C'est-à-dire que si on parle ici de travail social, c'est parce que c'est un lien direct avec la notion d'accompagnement. Et on remarquera que c'était il y a 2 ans, lorsque la feuille de route faite par François Chérec a accompagné le suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, on nous a annoncé un 6e principe qui était le principe de l'accompagnement. D'où on était surpris, mais dire, l'accompagnement, c'est quand même partie du baba du secteur. Donc, je pense que finalement, ce qui se joue, c'est l'idée d'un continuum des réponses. Parce que la diapo de l'équipe de Marseille, de Working Fast de Marseille, elle m'a fait bien rigoler parce qu'elle m'a évoqué des choses. Quand je voyais Pax de raison ou de passion, avec la mission d'appui en santé mentale et la FNARS à l'époque, on avait fait une journée d'études qui s'intitulait, qui a donné lieu à une publication, Mariage d'amour ou mariage arrangé. On était à peu près sur. Bon, sauf que là, vous êtes sur le Pax, on était vieille école, on était sur le mariage. Mais dans les deux cas, on avait complètement tort. Parce que si, raisonner comme ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'amis québécois, je pense à Yves Couturier, mettent en garde. Ils nous mettent en garde contre la notion de coordination, en disant si vous coordonnez, vous coordonnez des choses qui restent identifiées comme étant des blocs à part. De ce point de vue, il est certain que cela modifie la façon de travailler. La question a été posée par Patrick Lochaud tout à l'heure, elle était tout à fait pertinente, parce que finalement, au-delà de compétences identifiées, donc j'ai entendu un intervenant qui dit j'en ai plein dans mon sac à dos et je les sors que lorsque les personnes le demandent. N'empêche qu'il y en a dans le sac à dos et oui, on a formaliser beaucoup les compétences professionnelles de cette façon-là, mais je rappelle que suite à la conférence nationale contre la pauvreté, il y a eu un rapport dans le cadre de cette conférence de Michel Dinet et Michel Thierry qui avait une formule dont on ne se lasse pas, qui est de dire il faut passer d'une solidarité par les droits à une solidarité d'engagement. Autrement dit, ça veut dire que oui, il faut consolider les professions, consolider, renforcer le travail social, renforcer cette façon d'approcher les choses. Oui, il faut aussi se préoccuper de l'accès aux droits, mais le travail social n'est pas que affaire d'aide à l'accès aux droits. Il suppose d'aller au-delà. Et ça, je l'ai complètement retrouvé aujourd'hui dans cette journée, parce qu'on a bien vu que les assistantes sociales dont on nous parlait, ce n'étaient pas du tout celles qui se préoccupaient uniquement de l'accès aux droits. Donc, ça a été également dit, c'est très important de montrer comment il y a un lien entre à la fois l'affirmation de la place du travail social, mais aussi la présence des équipes pluridisciplinaires qu'on a déjà eues du point de vue pour le RMI, maintenant le RSA. Et en fait, au passage, puisque c'est quand même l'actualité, on parle de pérennisation et d'inscription dans le code de l'action sociale et familiale. Aujourd'hui, pour le travail social, il y a une chose qui est en jeu, c'est l'inscription dans le code d'une définition du travail social. Parce qu'en fait, tout ce que je viens de dire se fait sur fond d'absence de définition du travail social. Il se fait sur fond d'identification de compétences formalisées, calées sur des identités professionnelles, parfois dans des logiques corporatistes, il faut bien le dire, mais n'empêche que dans la définition qui a été adoptée par le Haut Conseil du Travail Social le 23 février 2017, oui, ça remonte à peu de temps, je retrouve notamment des thématiques qui ont été évoquées, l'empowerment, mais aussi le développement du pouvoir d'agir, etc. L'autre point, parce que je suis trop bavard, donc je voudrais dire que ce qui se joue aussi, c'est le nouveau rapport aux personnes. Alors là, quand même, on ne peut pas m'empêcher de rappeler le rapport du Conseil supérieur du travail social qui s'intitulait « Refonder le rapport aux personnes ». Merci de ne plus nous appeler usagers. C'est en s'appuyant sur une sollicitation des personnes pour laquelle, en fait, ce qui avait été surtout mis en avant, c'était l'importance d'avoir une approche des pratiques professionnelles, notamment dans le champ du travail social, mais je crois que c'est vrai aussi des professions paramédicales. C'est à la fois, on disait, un travail social en résonance. Et en résonance de quoi? En résonance des, pour reprendre une formule chère à l'ANESM, des besoins, attentes et préoccupations des personnes. Ce n'est pas uniquement les besoins objectivés, attentes et préoccupations. Et d'autre part, on parle d'un travail social en retrait. C'est-à-dire qu'en fait, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de faire évoluer les pratiques professionnelles en se préoccupant de gérer la distance avec deux types de problèmes que l'on a dans le collimateur. Un, c'est la question du chez-soi n'est pas une question banale. D'abord, elle pose un problème qui a été un peu abordé, c'est-à-dire les conflits de priorité, puisque j'entendais le chez-soi d'abord, les soins d'abord, le travail d'abord, et en fait, comme on est des gens bien, on dit ça en même temps, hein, donc enfin, n'empêche que c'est du d'abord, donc ça pose quand même un problème. Mais surtout, le chez-soi, ça a été évoqué à propos de l'intervention concernant la sexualité, pose le problème de l'espace privé et de la question de l'intimité, qui est une question qui était déjà présente dans la loi du 2 janvier 2002 et qui pose un vrai problème dans le rapport aux personnes. Puis un deuxième aspect, c'est que, je rappelle justement cette loi de 2002, elle donne une définition double de l'action sociale et médico-sociale, qui est de trouver un équilibre finalement entre la recherche d'autonomie des personnes, mais aussi le besoin de ces mêmes personnes à être protégées. Donc le couple autonomie et protection, c'est ça qui fait, à mon sens, la difficulté du travail dans l'aide à autrui, c'est de savoir comment on peut mettre le curseur dans un projet entre autonomie et protection. Et je termine sur les apports de la recherche. Je dois dire que j'étais assez soufflé par la qualité du travail qui a été présenté par Pascal Houtier et puis Pauline Renter. Ce qui m'a surtout frappé, c'est l'extrême prudence dont a témoigné Pascal Houtier. Ce n'est pas, à mon avis, de la fausse modestie. C'est parce que là, on a vu une vraie démarche de recherche. Il y a des chiffres. Bon, c'est vrai que ça peut choquer de dire les chiffres, vous en occupez pas. Mais enfin, quand même, le message était là. Mais c'est surtout que l'idée de la recherche, c'est de produire de la connaissance. Et il nous manque deux types de connaissances. On se préoccupe de la recherche en travail social parce que nous, on a un problème. Je dis nous parce que je fais partie d'un laboratoire aussi de recherche. Notre problème, c'est la connaissance des publics. Pas dans une approche voyeuriste, hein, mais c'est que il y a. J'entends bien qu'on dit des public spécifique. Seulement, il y a une telle hybridation des difficultés des personnes que c'est quand même c'est un des points sur lequel moi, je ne suis pas toujours complètement emballé. Et puis, un deuxième point, deuxième objet de recherche, et ça, Pascal Hoquet l'a rappelé, c'est l'intérêt de l'apport de recherche économique. Parce qu'en dehors des études de rationalisation des choix budgétaires de la fin des années... du début des années 80, il y a effectivement un gros problème. Il y a bien une économie de la protection sociale, mais on est quand même en manque d'un certain nombre de choses. De ce point de vue-là, on s'interrogera, mais ça c'est un point à discuter, de la part qu'il faut donner à la recherche et la part qu'il faut donner à l'évaluation, ou je dirais aux recherches évaluatives. Alors le fait qu'il y ait une convention avec l'ANESP, c'est tout à fait intéressant, sauf que deux choses, je dirais, c'est que l'ANESP, elles sont... périmètre, c'est les pratiques professionnelles, donc ça c'est important. Et puis deuxièmement, comme j'ai vu sur la diapo, dans le cadre de la convention, vous évoquez le fait que l'idée c'est d'utiliser les outils prévus par la loi de 2002, évaluation interne, évaluation externe, régime de l'autorisation pour l'accompagnement, mais il y a un prix. Et le prix c'est la mortalité du dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un régime d'autorisation, c'est ça la règle, c'est que l'autorisation, elle est à durée déterminée, en tout cas dans le secteur social et médico-social, durée à 15 ans. Donc là, bon, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête. Et puis, quand même, puisque Eric Latimer l'a évoqué, c'est quelque chose pour lequel on se préoccupe beaucoup aussi de l'implication, je ne parle pas que de la participation, mais l'implication des usagers dans la recherche elle-même. Et il y a eu un séminaire d'épistémologie avec ATD Carmonde sur ces questions-là, qui va donner lieu aussi aujourd'hui à des initiatives. Conclusion de mon propos trop rapide, je pense que c'est très important de défendre l'interministérialité, pas parce que vous êtes là, hein, mais parce que j'y crois vraiment, parce que ça, on risque d'éviter un certain nombre de petites erreurs. Je pense que pour les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, il y a eu un problème aussi de calage par rapport au public concerné. Et puis, j'ai entendu parler dans la table ronde de confiance. Et c'est vrai que la question du chez-soi, ça pose aussi la question du lien avec les autres. Ce n'est pas un chez-soi statique, parce que ce matin, on a entendu parler de parcours. Donc j'imagine bien que les gens ne restent pas chez eux, que le chez-soi, ça peut être redoutable si ça se paye de la solitude des personnes, mais que l'ouverture aux autres, il repose sur la confiance. Or, les études de Philippe Varin de l'Odenor à propos du non-recours au droit... rappeler qu'un des critères, une des raisons pour lesquelles il y a eu du non-recours au droit, c'est justement la non-confiance. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait central. Donc, il me semble que tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, ça a un peu à voir avec la question de la démocratie. Voilà. Merci.